à la nuit noire, complètement, je suis parti pour la maison vide de mon père. L'indice d'Amy sur le siège à côté de moi. Peut-être te sens-tu coupable de m'amener ici, je dois reconnaître que ça me fait un peu bizarre, mais ce n'est pas comme si on avait beaucoup de choix. Nous avons pris notre décision, nous en avons fait notre espace. Menons notre amour à cette petite maison brune. Fais-moi voir un peu tes bonnes œuvres, ton épouse ardente. Celui-ci était plus cryptique que les autres, mais j'étais sûr tout de même de l'avoir déchiffré correctement. Amy me donnait Carthage, me pardonnait enfin pour notre installation ici. Peut-être te sens-tu coupable de m'amener ici, mais nous en avons fait notre espace. La petite maison brune, c'était la maison de mon père, qui en fait était bleue, mais Amy faisait encore une private joke. C'est toujours ce que j'avais préféré, nos private jokes. Elle me donnait toujours le sentiment d'être plus proche d'Amy que toutes les heures du monde à s'avouer nos secrets les plus intimes, à faire l'amour passionnément ou à parler jusqu'au lever du soleil. L'histoire de la petite maison brune concernait mon père, et Amy était la seule personne à qui je l'avais jamais dit. Qu'après le divorce, je le voyais tellement petit que j'avais décidé de le considérer comme un personnage d'un livre pour enfants. Il n'était pas mon véritable père, qui m'aurait aimé et aurait passé du temps avec moi, mais une figure bienveillante et vaguement importante du nom de Monsieur Brown, qui faisait des choses très importantes pour les États-Unis et qui, très occasionnellement, m'utilisait comme couverture afin de garder l'anonymat en ville. Amy avait eu les larmes aux yeux quand je lui avais raconté cette histoire. Que je n'avais pas raconté pour ça, que j'avais raconté pour illustrer que les gamins sont bizarres. Elle m'a dit qu'elle était ma famille maintenant, qu'elle m'aimait assez pour rattraper 10 pères merdiques, et que maintenant, les Dunes, c'était nous, nous deux. Puis elle m'a murmuré à l'oreille « Mais j'ai une mission qui pourrait te faire du bien, justement. » Quant à remettre les bonnes œuvres sur le tapis, c'était également un geste d'apaisement. Lorsque Alzheimer avait pris complètement possession de mon père, nous avions décidé de vendre sa maison, et Amy et moi étions passés chez lui faire des cartons pour les bonnes œuvres. Amy, bien sûr, abattait le travail comme un derviche tourneur, emballé, rangé, jeté, pendant que j'examinais les affaires de mon père d'un œil glacial. Pour moi, chaque chose était un indice. Un mug avec des taches de café plus marquées que les autres devait être son préféré. Était-ce un cadeau ? Qui lui avait offert ? Ou est-ce qu'il l'avait acheté lui-même ? Je m'imaginais que pour mon père, le simple acte de faire des courses était dévirilisant. Pourtant, une inspection de son placard m'a révélé 5 paires de chaussures, flambant neuves, toujours dans leur boîte. Les avait-il achetées lui-même, s'imaginant un Bill Dune différent, plus sociable que celui qui se défaisait lentement, seul ? Était-il allé à Shubidoubi ? Avait-il sollicité l'aide de ma mère ? Tel un simple inconnu dans la longue série de ses politesses sans conséquence. Bien sûr, je n'ai partagé aucune de ces méditations avec Amy, donc je suis persuadé que j'ai eu l'air du tir au flanc que je suis si souvent. « Tiens, un carton, pour les bonnes œuvres », a-t-elle dit, me surprenant assis par terre contre un mur en train de regarder fixement une chaussure. « Tu mets les chaussures dans le carton, ok ?» J'étais gêné, j'ai répondu d'un ton hargneux, elle l'a mal pris et... comme d'habitude. Je devrais ajouter, pour la défense d'Amy, qu'elle m'avait demandé par 2 fois si je voulais parler, si j'étais sûr de vouloir faire ça. Il m'arrive d'omettre ce genre de détails. C'est plus commode pour moi. En vérité, j'aurais voulu qu'elle lise dans mes pensées afin que je n'aie pas besoin de m'abaisser à l'art féminin de l'expression verbale. Parfois, j'étais tout aussi coupable qu'Amy pour ce qui est de jouer au petit jeu de « devine ce que j'ai dans la tête ». Cette information, je l'ai omise également. Je me suis garé devant la maison de mon père juste après 23 heures. C'était un petit endroit, propre, un bon endroit pour commencer ou finir sa vie. 2 chambres, 2 salles de bain, 1 salle à manger, 1 cuisine, vieillotte mais correcte. 1 pancarte à vendre rouillait devant l'entrée. 1 an et pas un acheteur potentiel. Quand je suis entré dans la maison mal aérée, la chaleur a fondu sur moi. Le système d'alarme premier prix que nous avions installé après le 3e cambriolage s'est mis à biper comme le compte à rebours d'une bombe. J'ai entré le code, celui qui rendait Amy dingue parce qu'il bafouait toutes les règles en matière de code. C'était ma date de naissance. 15-08-77. Code refusé. J'ai essayé de nouveau. Code refusé. Une perle de sueur a coulé dans mon dos. Amy avait toujours menacé de changer le code. Elle disait qu'il était inutile d'avoir un code aussi facile à deviner. Mais je connaissais la vraie raison. Elle m'en voulait d'avoir privilégié mon anniversaire et non notre anniversaire de mariage. Une fois de plus, j'avais choisi moi plutôt que nous. Ma nostalgie douce amère pour Amy s'est évanouie. J'ai pianoté le clavier de nouveau, sentant la panique monter en moi, tandis que l'alarme lançait son compte à rebours. Bip, 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 avant de se mettre à brailler son alerte anti-intrus à plein tube. Wonk, wonk, wonk. Mon portable était censé sonner pour que je puisse donner le feu vert. C'est juste moi, le débile, mais il n'a pas sonné. J'ai attendu une minute entière. L'alarme me rappelait un film de sous-marin qui se fait torpiller. La chaleur suffocante d'une maison fermée en plein mois de juillet grésillait sur moi. Le dos de ma chemise était déjà trempé. Putain, Amy. J'ai examiné l'alarme en quête du numéro de la compagnie. En vain. J'ai approché une chaise et j'ai commencé à tirer sur l'alarme. Je l'avais décrochée du mur. Elle pendait par ses fils lorsque mon téléphone a enfin sonné. Une voix hargneuse m'a demandé le nom du premier animal de compagnie d'Amy. Wonk, wonk, wonk. C'était exactement le mauvais ton, arrogant, irascible, profondément indifférent, et exactement la mauvaise question, car je ne connaissais pas la réponse, ce qui m'a mis en rage. Je pouvais comprendre tous les indices que je voulais, je me prendrais toujours une saloperie d'Amy pour m'émasculer. « Écoutez, je suis Nick Dune, c'est la maison de mon père, c'est moi qui ai ouvert ce compte !» Et je dis d'un ton brusque. « Alors on s'en fout bien du nom du premier animal de compagnie de ma femme !»« Wonk, wonk, wonk !»« Ne prenez pas ce ton-là avec moi, s'il vous plaît, monsieur !»« Écoutez, je suis juste venu prendre un truc chez mon père et maintenant je m'en vais, ok ?»« Je dois faire un signalement à la police immédiatement !»« Vous ne pouvez pas juste éteindre cette fichue alarme que je m'entends penser ?» « Wonk, wonk, wonk !»« L'alarme est éteinte. »« L'alarme n'est pas éteinte. »« Monsieur, je vous ai déjà prévenu, ne me parlez pas sur ce ton-là. »« Espèce de salope. »« Vous savez quoi ? Merde, merde, merde !» J'ai raccroché, pile à l'instant où je me rappelais le nom du chat d'Amy, le tout premier chat, Stuart. J'ai rappelé, je suis tombé sur une autre opératrice qui a coupé l'alarme et, Dieu la bénisse, a annulé le signalement à la police. Je n'étais pas franchement d'humeur à m'expliquer. Je me suis assis sur la fine moquette bon marché et me suis forcé à respirer. Mon cœur battait encore la chamade. Au bout d'une minute, quand mes épaules se sont relâchées, ma mâchoire et mes poings desserrés, et que mon cœur est revenu à son rythme normal, je me suis relevé et j'ai hésité un instant à partir tout de suite, comme si ça pouvait donner une leçon à Amy. Mais en me redressant, j'ai vu une enveloppe bleue posée sur la table de la cuisine comme une lettre de rupture. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai soufflé, nouvelle attitude, et j'ai ouvert l'enveloppe et lu la lettre dans la chaleur de la maison de mon père. « Hello, chérie. Ainsi, nous avons tous les deux des choses sur lesquelles il nous faut travailler. Moi, ce serait mon perfectionnisme, ma suffisance occasionnelle, je me berce d'illusions. » Toi, tu sais que tu crains parfois d'être trop distant, trop renfermé, incapable d'être tendre ou présent. Eh bien, je veux te dire, ici, dans la maison de ton père, que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas ton père. Il faut que tu saches que tu es un homme bon, un homme doux, attentionné. Il m'est arrivé de te punir parce que tu n'étais pas capable de lire dans mes pensées, pas capable de te comporter exactement comme je le souhaitais à un moment précis. Je t'ai puni parce que tu es un homme, un vrai, en chair et en os. Je t'ai donné des ordres au lieu de compter sur toi pour trouver ta voie. Je n'ai pas laissé le bénéfice du doute. Nous pouvons faire tous les faux pas du monde, tu m'aimes toujours et tu veux mon bonheur. Et ça devrait suffire à n'importe quelle fille, pas vrai ? J'ai peur d'avoir dit de toi des choses qui ne sont pas vraies, en fait, et que tu te sois mis à les croire. Alors je suis là pour dire aujourd'hui, tu es chaleureux, tu es mon soleil. » Si Amy était avec moi, comme elle l'avait prévu, elle se serait blottie contre moi comme elle le faisait autrefois. Elle aurait enfoui son visage dans le creux de mon cou. Elle m'aurait embrassé. Elle aurait souri. Et elle aurait dit « Tu l'es, tu sais ». mon soleil. » La gorge serrée, j'ai jeté un dernier coup d'œil circulaire sur la maison de mon père et je suis sorti, refermant la porte sur la fournaise. Dans ma voiture, j'ai fébrilement ouvert le dernier indice. Nous devions être près de la fin. Imagine-moi, je suis une fille très méchante, il faut me corriger, et par corriger, je veux dire prendre. C'est là que tu gardes les petits cadeaux pour notre cinquième bougie. Pardonne-moi si ça devient tiré par les cheveux, on y a pris du bon temps en plein après-midi, on est sorti boire des cocktails, c'était très gai. Alors cours-y maintenant, plein de doux soupirs, ouvre la porte et prépare-toi à une belle surprise. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas ce qu'il signifiait, celui-là. J'ai senti une montée d'angoisse. Bonnie était à mes trousses, Noël était dingue, Shona était en colère, Hillary m'en voulait, la femme de la compagnie d'alarme était une salope, et ma femme m'avait collé avec son énigme, finalement. Il était temps de terminer cette putain de journée. Il n'y avait qu'une seule femme que je pouvais supporter pour le moment. Go m'a jeté un seul regard. J'étais ébranlé, lèvres serrées et épuisé par la chaleur de la maison de mon père, et m'a installé d'office sur le canapé. Elle a annoncé qu'elle allait nous préparer un dîner de minuit. 5 minutes plus tard, elle s'est approchée de moi d'un pas prudent, portant mon repas en équilibre sur un vieux plateau télé. Un classique chez les Dunes, un sandwich au fromage grillé et des chips goût barbecue. Un gobelet en plastique de...
« Ce n'est pas du Kool-Aid !» a dit Go, c'est de la bière. Le Kool-Aid, ça me semblait un peu trop régressif.
C'est très attentionné et très étrange de ta part, Go.
Demain, c'est toi qui fais la cuisine.
J'espère que t'aimes la soupe en boîte. Elle s'est assise sur le canapé, à côté de moi, a volé une chips dans mon assiette et m'a demandé sur un ton trop désinvolte.
T'as une idée de la raison pour laquelle les flics m'ont demandé à moi si Amy faisait toujours du 36 ?
Putain, mais ils vont pas lâcher le morceau.
Ça te fait pas flipper ? T'as pas peur qu'ils aient retrouvé ses vêtements ou un truc comme ça ?
Ils m'auraient demandé de les identifier, pas vrai ?
Elle y a réfléchi une seconde, l'air préoccupé.
C'est logique, a-t-elle dit.
Elle a gardé son air sérieux jusqu'à ce qu'elle surprenne mon regard, puis elle a souri. On se trouve un match à maté, d'accord ? Ça va ?
Ça va.
Je me sentais affreusement mal. J'avais mal au cœur, mon esprit se craquelait. Peut-être était-ce l'indice que je n'avais pas réussi à piger, mais j'avais soudain l'impression d'avoir négligé quelque chose. J'avais fait une énorme erreur, et mon erreur allait provoquer un désastre. Peut-être était-ce ma conscience qui remontait à la surface depuis sa planque secrète. Go a trouvé un match à la télé, et pendant les 10 minutes qui ont suivi, elle n'a parlé que de ça. Et encore, seulement entre 2 gorgées de bière. Go n'aimait pas le fromage grillé. Elle piochait dans le pot de beurre de cacahuète avec des crackers. Lorsque la pub a commencé, elle a dit « Si j'avais une bite, je la fourrais dans ce beurre de cacahuète » en envoyant délibérément des miettes dans ma direction. « Je crois que si t'avais une bite, ce serait la catastrophe. » Le match a repris. Les Cards menaient de 5 points. À la coupure suivante, Go a dit « Au fait, j'ai changé mon forfait de portable aujourd'hui, et la chanson d'attente, c'était du Lionel Richie. Ça t'arrive d'écouter Lionel Richie ? Moi, j'aime bien Penny Lover, mais c'était pas celle-là en tout cas. Bref, une nana a fini par décrocher, elle a dit que tous les employés du service client sont basés à Baton Rouge. Ce qui était bizarre, parce qu'elle a dit qu'elle avait grandi à la Nouvelle-Orléans, et c'est un fait peu connu, mais les gens de la Nouvelle-Orléans, comme on dit les néo-orléanais, en tout cas, ils n'ont quasiment pas d'accent. Elle a dit que pour mon forfait, le forfait A...
Go et moi, nous avions un petit jeu inspiré par notre mère, qui avait l'habitude de raconter des trucs tellement sans intérêt, des histoires tellement interminables, que Go était persuadé qu'elle se foutait secrètement de notre gueule. Depuis environ 10 ans, à présent, à chaque fois que la conversation entre Go et moi menaçait de se tarir, l'un de nous deux se lançait dans une anecdote sur la réparation d'électroménagers ou le remboursement de coupons. Mais Go était plus résistante que moi. Ses histoires pouvaient se prolonger indéfiniment, comme un bourdonnement. Elles duraient si longtemps qu'elles devenaient véritablement agaçantes, avant de déboucher de nouveau sur un effet hilarant. Go a enchaîné sur une anecdote concernant la lumière de son frigo, et elle ne montrait aucun signe de lassitude. Empli d'une soudaine, d'une puissante gratitude, je me suis penché en travers du canapé et l'ai embrassé sur la joue. « C'est pourquoi, ça ?»« Merci, c'est tout. » J'ai senti les larmes monter. J'ai détourné le regard un instant pour les chasser d'un clignement de paupières et Go a repris. « Donc, il me fallait une pile AAA, ce qui n'est pas la même chose, en fait, qu'une pile 9 volts. Donc, il a fallu que je retrouve le ticket de caisse pour rendre la pile 9 volts. » Le match s'est terminé. Les cartes ont perdu. À la fin, Go a coupé le son de la télé. « Tu veux parler ou tu veux encore de la distraction ? Comme tu préfères. » « Va te coucher, Go. Je vais traîner encore un peu. Sans doute dormir. J'ai besoin de sommeil. Tu veux un Stilnox ?» Ma sœur jumelle croyait profondément aux vertus de la solution de facilité. Pas de cassette de relaxation ou de CD du chant des baleines pour elle. Avale un cachet, assomme-toi. Non. Ils sont dans l'armoire à pharmacie si tu changes d'avis. Elle a hésité, quelques secondes seulement, puis, de façon caractéristique, a pris le couloir en trottinant, n'ayant visiblement pas sommeil, et a fermé sa porte, sachant que ce qu'elle pouvait faire de plus charitable était de me laisser tranquille. Ce don manquait à beaucoup de gens, celui de savoir quand il faut se casser. Les gens adorent parler. Or, je n'ai jamais été très loquace. Je poursuis sans cesse un monologue intérieur, mais il arrive souvent que les mots n'atteignent pas mes lèvres. Elle est jolie aujourd'hui, je pense, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne me viendrait pas à l'esprit de le dire à haute voix. Ma mère parlait, ma sœur parlait. J'avais été élevé pour écouter. Aussi, être assis sur le canapé, tout seul, sans parler, me faisait l'effet d'un luxe. J'ai feuilleté un des magazines de Go, zappé sur les chaînes de télé, avant de m'arrêter finalement sur une vieille série en noir et blanc où des hommes en feutre mou prenaient des notes, tandis qu'une jolie femme au foyer expliquait que son mari était en voyage à Fresno. Les deux flics hochaient la tête en se regardant d'un air entendu. J'ai pensé à Gilpin et Bonnie, et j'ai eu un haut-le-cœur. Dans ma poche, mon deuxième téléphone a fait un petit bruit, comme une machine à sous quand on touche le jackpot. J'avais reçu un SMS. « Suis dehors, ouvre la porte. »